La marche du monde.
La marche du monde vous transporte sur un champ de bataille absent des manuels d'histoire. Vous avez entendu parler d'Austerlitz ou encore de Waterloo, mais si vous n'êtes pas haïtien, vous n'avez aucune idée de ce qui s'est passé le 18 novembre 1803 à Vertières. D'ailleurs, vous n'avez jamais entendu le nom de Vertières. Et pourtant, comme le révèle Jean-Pierre Le Glonec dans son livre « L'armée indigène », la bataille de Vertières est l'acte ultime de la révolution haïtienne. Et à Vertières, les Haïtiens ont battu les Français en chantant la Marseillaise.
Marche du monde, Valérie Nivelon.
Un coup de poing dans le silence. C'est ainsi que l'écrivain haïtien Lionel Trouillot qualifie le livre de Jean-Pierre Le Glonec. Un livre qui fait date puisqu'il documente la défaite de Napoléon en Haïti et reconstitue la bataille de Vertières. Bonjour Jean-Pierre Le Glonec.
Bonjour.
Et bienvenue à Paris, vous qui enseignez l'histoire d'Haïti et des Amériques à l'université francophone de Sherbrooke, au Québec, province du Canada. Alors pour que l'on comprenne bien l'importance de cette bataille de Vertières en novembre 1804 en Haïti, pourriez-vous tout d'abord préciser ce que représente Vertières dans la guerre d'indépendance menée par les Haïtiens contre l'armée de Napoléon ?
Oui, bien sûr, la bataille de Vertières a lieu donc le vendredi 18 novembre 1803. J'insiste sur la date, puisque jusqu'à maintenant, dans la plupart des rares livres français qui mentionnent la bataille n'a jamais lieu le 18 novembre. Elle a lieu le 17, le 19, le 20, voire le 11 octobre, ou même elle risque de ne pas avoir lieu, tout simplement. Alors, la bataille de Vertières met fin à une guerre terrible qui oppose l'armée napoléonienne, commandée d'abord par le général Leclerc et ensuite par le général Rochambeau. Cette armée arrive en force début février 1802 pour établir la paix et pour apporter le bonheur. Ce sont les mots qui sont utilisés dans la proclamation apportée par le général Leclerc. L'objectif finalement de l'expédition napoléonienne n'est pas véritablement de rétablir la paix, mais plutôt de rétablir le dogme de la race et, on s'en doute, l'esclavage qui avait été aboli en 1794. De février 1802 à novembre 1803, la colonie de Saint-Domingue, aujourd'hui connue sous le nom d'Haïti, est un théâtre de violence extrême et qui mène donc jusqu'à la bataille de Vertières. La bataille de Vertières clôt cette guerre qui oppose deux armées auparavant sœurs.
Et elle est gagnée par les Haïtiens. Alors bien sûr, nous allons revenir avec vous sur les tenants et les aboutissants de cette bataille de Vertières. Mais tout d'abord, parlons plus largement du contexte et des valeurs défendues par les Haïtiens. Pour quelles raisons auraient-ils chanté cette Marseillaise, qui est à l'origine, je le rappelle, le chant patriotique de la Révolution française?
Oui, alors il y avait toute une tradition franco-haïtienne sur l'existence de cette Marseillaise partagée entre deux révolutions. Jusqu'à tout récemment, on présentait la Révolution Saint-Domingue comme la fille de la Révolution française. En fait, on peut sûrement dire, enfin, plusieurs historiens et moi-même ont montré que la Révolution haïtienne vient réaliser finalement ce que la Révolution française n'est pas capable de faire. La Révolution haïtienne vient réaliser l'universalisme par-delà la race. Et je crois que c'est ce qu'il faut ici retenir. La Révolution française donne naissance à toutes sortes de très belles valeurs, mais la valeur universelle par excellence, celle qui transcende la race, elle est combattue, elle est portée par des esclaves, des Africains pour la plupart, qui de 1791 à 1793 se révoltent et réclament l'égalité des droits.
Alors effectivement, la Marseillaise est un chant de guerre révolutionnaire contre la tyrannie et l'invasion étrangère, avant de devenir l'hymne national français. Alors pour les Haïtiens, la tyrannie, c'est donc celle de la France esclavagiste de Napoléon, vous venez de le rappeler, parce que Napoléon a rétabli l'esclavage en 1802. Concrètement, comment ça s'est passé en Haïti ?
Alors, ce qui se passe donc entre 1802 et 1803, eh bien, il se passe que les anciens esclaves, devenus citoyens français en 1794, refusent de redevenir esclaves et ils affirment haut et fort un droit simple, que je résume dans le livre de trois manières, un droit à la vie, un droit à la liberté et surtout un droit à la citoyenneté.
L'armée indigène, c'est le titre du livre de notre invité Jean-Pierre Le Glonec, un livre préfacé par le romancier, poète, intellectuel engagé Lionel Trouillot, que j'ai joint au téléphone à Port-au-Prince, en Haïti. Bonjour Lionel Trouillot.
Bonjour.
Pour quelle raison avez-vous accepté de signer la préface du livre de Jean-Pierre Le Glonec ?
Il m'avait semblé que c'était un livre extrêmement important, puisque cet événement a été passé sous silence. Et quand Jean-Pierre m'avait dit que le mot vertière n'existait même pas dans des dictionnaires de nom propre, voilà un événement historique majeur qui n'a pas été signalé. Le livre vient donc réparer cet oubli et c'est vraiment, à mon avis, un livre d'une extrême importance.
Alors vous citez votre frère Michel Rolf Trouillot. Il ne suffit pas à l'événement d'avoir eu lieu pour s'inscrire dans la mémoire. Il faut aussi qu'un pouvoir l'institue, le valorise. Est-ce que cette critique peut s'adresser autant au pouvoir colonial, qui est donc battu, qu'à la jeune République haïtienne naissante, qui à son tour donc va connaître l'exercice du pouvoir?
À eux deux, mais pas seulement à eux deux, je dirais à toute instance de reconstitution de l'histoire. Dans le cas de Vertière, on peut parler d'une sorte de vaste complot, d'une politique du silence sur l'événement. L'historiographie occidentale n'en fait pas cas. Les Haïtiens, bien entendu, en parlent. Il y a une production historique des Haïtiens sur Vertière qui est importante, mais je veux dire, ce n'est pas un phénomène qui a été repris par les instances de valorisation et de légitimation des événements historiques.
Est-ce que c'est pour cela que, au fond, vous parlez d'un livre à la fois honnête et insolent lorsque vous parlez de l'armée indigène, donc ce livre de Jean-Pierre Le Glonec ?
Oui, déjà cette notion d'armée indigène, il y a toute une stratégie, il y a un ensemble d'éléments dans la façon dont Jacques Dessalines a conduit cette guerre et tout cela était banalisé. On a l'impression que c'était par une sorte de coup de hasard. Une horde de sauvages a vaincu la plus grande armada levée par Napoléon. Or, justement, ce livre vient avec une certaine insolence rappeler un peu comment les choses se sont vraiment passées. Vraiment, vraiment, beaucoup de respect et beaucoup d'amitié pour ce travail qui nous rend service à l'histoire et contribue à une meilleure représentation d'Haïti.
Merci beaucoup Lionel Trouillot d'avoir revendiqué donc sur RFI votre préface de ce livre L'armée indigène. Merci.
Merci à vous.
L'armada de Napoléon n'a pas été battue par hasard par une horde de sauvages, nous dit Lionel Trouillot. Alors parlons justement de la violence de cette bataille de Vertière sur laquelle vous insistez beaucoup dans votre livre, Jean-Pierre Le Glonec. Parlons justement de la vision de l'Empire français, une vision qui exclut la défaite, écrivez-vous. Soit l'esclavage et son système économique sont rétablis, soit il faut nettoyer Saint-Domingue de ses rebelles noirs. Qu'est-ce que cela signifie ?
Je pense qu'il faut ici peut-être faire un petit rappel. La bataille de Vertière a lieu donc le 18 novembre 1803, un vendredi d'orage. Elle commence vers 6h du matin, se termine vers 5h de l'après-midi. Donc c'est une bataille courte, au terme de laquelle finalement il n'y a ni vainqueur ni vaincu D'un point de vue militaire, c'est évident que les Français sont vaincus dans la mesure où Rochambeau ordonne l'évacuation de la plantation fortifiée de Vertières dans la nuit du 18 au 19 novembre. Donc ce petit rappel est important. En soi, je vais me contredire ici, la bataille de Vertières commence avant. Le 18 novembre 1803, elle commence avant 5 heures du matin. La bataille commence à peu près à l'été 1802, lorsqu'il est évident que la masse rurale, la masse paysanne, refuse d'être désarmée par l'armée du général Leclerc. Et à partir de ce moment-là, la guerre qui oppose les Noirs aux Blancs, qui oppose l'armée de Leclerc à l'armée plus tard de Jean-Jacques Dessalines, devient une guerre de destruction totale. Il devient une guerre de couleurs. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle est décrite par plusieurs observateurs, dont le général Pamphile de la Croix. Une guerre entre la couleur noire et la couleur blanche. Et finalement, il n'est même plus question de rétablir l'esclavage au fur et à mesure que la guerre avance. Il est d'abord et avant tout question de détruire l'autre. De détruire l'autre parce qu'il est noir, et parce qu'il est noir et qu'il est libre, et qu'il a été citoyen, il ne pourra plus jamais devenir esclave. Il faut donc le détruire totalement. Et évidemment, à l'inverse, la violence est partagée, la violence est cumulative. L'armée indigène, qui est formée progressivement au printemps 1803, a pour objectif de détruire totalement l'ennemi blanc. C'est le seul moyen pour elle de survivre.
Et l'armée indigène galvanise ses troupes, entre autres avec une chanson. Alors, on a entendu en ouverture de cette émission la Marseillaise, y compris la version Deux armes, etc. par Serge Gainsbourg.
La plus belle.
Et puis, il y a une autre chanson qui est un fil aussi conducteur dans votre récit, Jean-Pierre Le Glonec. C'est Grenadier à l'assaut, une chanson que l'on chante sur tous les tons et dans toutes les contestations en Haïti, une chanson que l'on apprend dès l'école. Et c'est le comédien et romancier Dominique Batraville qui nous raconte.
Maman petite Marie, c'est une série à la vie. C'est qui? Parce qu'il y a la
Dominique Batraville, la première fois où vous entendez cette chanson, Grenadier à l'assaut, c'était quand?
C'est quand j'étais adolescent, j'étais au petit séminaire Collège Saint-Martial. Généralement, quand on hisse le drapeau haïtien, il y a des chants guerriers qui reviennent par après. Donc, par moment, les enfants, les écoliers, pour cultiver leur amour de la patrie, chantent ça en chœur. Grenadier à l'assaut, ça qui mouille, ça fait aïe. Grenadier à l'assaut, ça qui mouille, ça fait aïe. N'en point maman, n'en point papa, ça qui mouille, ça fait aïe. Grenadier à l'assaut, ça qui mouille, ça fait aïe. N'en point maman, n'en point papa, ça signifie grenadier à l'assaut. On n'a pas besoin de mère, de père dans cette histoire. Ceux qui meurent, tant pis pour eux. Ça peut être traduit comme cela, littéralement. Parce que c'est une chanson qui motivait les troupes. Et Vertières, ça a été la bataille finale de la révolution de Saint-Domingue. Et ça me fait plaisir de pouvoir évoquer cette tranche de bataille à travers cette chanson. Mais il y en a plein. Parce que nous sommes un pays qui chante, qui danse et qui rit. Et donc, par moment, pour résoudre certains problèmes, ça passe par la chanson. L'extrait le plus connu, et c'est Grenadier à l'assaut, ça qui mouille, ça fait aïe. Et quand il y a des mouvements de révolte, des mouvements de grève à Port-au-Prince, quand les gens sont en colère, c'est cette chanson qui revient. Et cette chanson aussi, c'est un leitmotiv pour les mouvements révolutionnaires en Haïti. Et quand il y a mouvement de renversement de pouvoir, de régimes dictatoriaux, on reprend cette chanson parce que ça motive le combat, le changement. Grenadier à l'assaut, ça qui mouise a fait aïe, n'en point maman, n'en point papa. Grenadier à l'assaut, ça qui mouise a fait aïe, n'en point maman, n'en point papa. Mais il y a aussi des chansonniers haïtiens, des chanteurs à texte qui utilisent cette chanson, qui réinterprètent, réarticulent la chanson. De toute façon, on ne peut pas oublier cette chanson. Quand on est haïtien, qu'on est éduqué, qu'on a fait l'histoire à l'école, on est tout de suite attiré par cette chanson.
Et cette chanson Grenadier à l'assaut court tout au long des pages de votre livre, Jean-Pierre Le Glonec. Est-ce que c'est à Vertières que cette chanson est inventée? Est-ce que c'est pendant la guerre d'indépendance des Haïtiens que cette chanson est inventée? D'où vient-elle?
Alors, c'est une excellente question qui nécessite une très longue histoire.
Jean-Pierre Le Glonec.
Alors ce sera court. On n'a pas vraiment de preuves que la chanson a été chantée à Vertières le 18 novembre 1803. Cette chanson a une très longue histoire et elle commence à être à intégrer finalement la littérature patriotique haïtienne à la toute fin du 19e siècle à la faveur de la célébration du premier donc centenaire de l'indépendance qui est célébré disons entre les années 1892 et 1904. À peu près. Mais c'est vraiment dans les années 30, 40 et surtout 50 que la chanson intègre le panthéon national finalement. Enfin, la chanson est aussi importante que les héros de la bataille de Vertières comme Capot à la mort. Elle a permis aux héros de vaincre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la chanson a toujours cette importance sociale et politique dont nous parlait Dominique Batraville tout à l'heure. Grenadier à l'assaut, c'est le chant de ceux, des citoyens opprimés, de ceux qui n'ont pas d'armes. Et en effet, j'ai vu plusieurs films, extraits de films, où l'on voit des manifestants sans armes, qui n'ont que leur corps et que leur chant, pour s'opposer à un État totalitaire ou à un État autoritaire. Alors cette chanson pour moi est extrêmement importante. On a entendu tout à l'heure cette chanson du groupe Family Sensei. Je dois ici dire quelque chose. J'ai rencontré le chanteur principal de ce groupe à l'automne 2010 et j'ai été profondément marqué par la rencontre que j'ai eue avec ce chanteur qui arrivait des quartiers pauvres de Martissant. Il m'expliquait à quel point finalement pour lui, qui n'avait pas de travail et qui passait, enfin qui espérait percer dans la musique, Grenadier à l'assaut sont les paroles qui lui restent quand il n'y a plus rien. Et c'est pas pour rien qu'on réinvente régulièrement ce chant, soit de manière plutôt ludique et plaisante, soit de manière plutôt politique.
Et avec votre livre, Jean-Pierre Le Glonec, on n'oubliera plus jamais cette chanson « Grenadier à l'assaut », ni non plus la bataille de Vertières, victoire de l'armée indigène sur l'armée de Napoléon, la suite de la marche du monde en musique, juste après les infos sur RFI.
Cette bataille de Vertières, cette bataille de Vertières, je la dédie à tous mes pères, des salines capois, boire en tonnerre. Son artillerie militaire pour cette bataille de Vertières. On reste un guerrier comme Sonny à l'hiver. Je libère mes confrères emprisonnés dans l'idéologie amère du général Leclerc. À un coup d'éclair, j'aiguise l'épée de Boiron Tonnerre pour péter les nerfs de système satanique et planté depuis six millénaires. L'art de la guerre se cache derrière ma colère. Prospère comme Gabriel Prosper, un révolutionnaire aux méthodes guerrières. Coup de couteau, coup de râteau sur les idéaux de Nicolas Ovando, Fronin Diego. Sans jeu à cache-cache comme Carmen San Diego. Bookman des salés de cola, Padre Jacques à Odabo. De la révolution, voyez gros. Ces vrais héros sont restés dévoués pour l'éternité. Sur le MIC, ma lutte est engagée. Je dégage un noir risque à la Louis Joseph Janvier.
À l'occasion du 15e sommet de la France.
la marche du monde.
18 novembre 1803, Haïti entre dans l'histoire comme première république noire. Ce fut pour tout le peuple noir un nouveau départ. Yeah, 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 yeah.
Barre en tonnerre, si au micro déclare la belle manière d'écrire notre histoire. La peau de l'ennemi comme parchemin, pour que notre indépendance se voie demain. Serre-toi de son crâne comme un encrier, pour que nos enfants puissent liberté crier. Une baïonnette trempée de son sang signera l'acte d'un peuple indépendant.
Cette bataille de Vercières, cette bataille de Vercières, je la dédie à tous mes pères. Des Salines, Capois, Boiron, Tonnerre. Cette bataille de Vercières.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
La bataille de Vertières, chantée par la colère prospère de l'artiste haïtien MC Dessalinien. Une bataille de Vertières, symbole de la victoire de l'armée indigène. Une bataille de Vertières, symbole de la défaite de Napoléon en Haïti. Une bataille de Vertières, acte final de 3 siècles d'oppression, écrivez-vous Jean-Pierre Le Glonec dans votre livre L'armée indigène. C'est aux éditions Luxe.
Oui, acte final, il y a quelque chose qui dépasse l'histoire finalement dans cet acte final. J'ai souvent pensé pendant que je l'écrivais ce livre à une tragédie grecque ou au théâtre de Shakespeare. Enfin, il y a quelque chose qui dépasse finalement le simple cours de l'histoire. Ce jour-là, le 18 novembre, c'est un acte militaire qui se passe, une bataille relativement traditionnelle, mais c'est bien plus que ça. C'est ce que j'appelle le renversement radical de la relation qui fonde le monde moderne quelque part au début du XVIe siècle et qui fonde la colonie de Saint-Domingue à la fin du XVIIe siècle. Le vrai problème derrière Vertières, c'est pas tant la défaite de Napoléon qui est réelle, mais c'est justement cet effondrement du monde moderne.
Alors effectivement, à l'époque, il faut rappeler à quoi ressemble cette société haïtienne. À l'époque, c'est Saint-Domingue, vous l'avez rappelé. 700 plantations de sucre, 3000 plantations de café et près de 500 000 esclaves.
Oui, c'est une colonie modèle qui fait l'envie de toutes les grandes puissances européennes, l'Angleterre et l'Espagne d'abord. À Saint-Domingue, on pourrait dire que la relation esclavagiste est parfaite. Elle est fondée sur une terreur sans limite, elle est fondée sur une relation de pouvoir évidemment profondément asymétrique, et elle est fondée sur une traite négrière qui ne semble jamais devoir s'arrêter. Les années qui précèdent la révolution de Saint-Domingue, donc les années 1789-1793, près de 30 à 40 000 esclaves, nouveaux esclaves africains, arrivent chaque année dans cette colonie qui fait l'envie de tous.
Alors évidemment, le 18 novembre 1803, si c'est la date de la bataille de Vertières, cette date est totalement absente de la mémoire des Français, pour cause, nous on ne l'a pas appris à l'école. En revanche, elle est extrêmement présente dans la mémoire collective haïtienne. Vertières est enseignée à l'école et Vertières est également transmise oralement à travers la chanson. C'est pour cela que la chanson nous accompagne, Jean-Pierre Le Glonec, depuis le début de cette émission.
Oui, elle est transmise dans la chanson, elle est transmise dans la peinture, elle est transmise dans la littérature. J'ai apporté ici le roman de Dany Laferrière, L'odeur du café. Je l'ai lu une première fois avant de m'intéresser à la bataille de Vertières et je ne m'étais pas rendu compte qu'au milieu du roman, il est question d'une leçon d'histoire que Dany Laferrière répète devant sa grand-mère Da, et il répète l'acte final lorsque le héros de la bataille, Capois la mort, s'en va donc vers Vertières, chevauchant sa monture, et sa monture est terrassé par un boulet de canon français et il continue à avancer en criant en avant, en avant. Alors oui, la littérature, la musique, la culture politique, parler de Vertières, enfin dire Vertières, c'est dire victoire.
Et dans cette chanson, dans ces œuvres, nous avons pu entendre combien les noms des héros haïtiens de la bataille de Vertières sont célébrés. Ils s'appellent Toussaint l'Ouverture, Capois la mort ou encore Dessalines.
À moi de livre Dessalines. À moi Erzili, déesse des eaux douces. Dessalines emporta mon cœur dans son courant. Un soir de cette île, un soir tout neuf, il arriva, le corps couvert de cicatrices. Les yeux rouges d'avoir étouffé sous le fouet et l'insulte des torrents de larmes. Il était tout hérissé de griffes, comme la mer, un jour de mauvais temps, roulant vague après vague. Sa justice vers nos mains d'esclaves. À moi de dire
des Alliés.
La voix du comédien Dominique Batraville, que je remercie pour sa participation à cette émission consacrée à la bataille de Vertières. Comment il faut l'imaginer, Jean-Jacques Dessalines ?
Comment est-ce qu'il faut l'imaginer ? Clairement pas comme un être brutal, tel qu'on le décrit encore beaucoup trop souvent, malheureusement, dans la littérature française.
C'est quand même un général.
Oui, c'est d'abord un général. C'est d'abord un général qui n'est pas tendre avec une partie de sa propre armée, du moins au début, dans la première partie de la guerre. C'est un général et c'est un penseur politique. C'est un philosophe des Lumières qui est aussi important, selon moi, que Voltaire, Condorcet ou Montesquieu. C'est quelqu'un, tout comme d'ailleurs Capois, qui pense le droit des hommes, le droit à vivre libre, le droit à ne pas être esclave. Jean-Jacques Dessalines préfigure Malcolm X, préfigure les grands leaders noirs du XXe siècle.
Donc un homme malgré tout éduqué, bien qu'il soit né esclave.
Mm-hmm, tout à fait. Oui, oui, Jean-Jacques Dessalines a laissé une correspondance abondante qui est analysée par de nombreux spécialistes, dont Deborah Jensen à l'université de Duke en Caroline du Nord. C'est un penseur politique, ce qu'a bien montré l'historien Laurent Dubois dans un article qui est resté célèbre. Les esclaves de Saint-Domingue qui deviennent des citoyens français en 1794 sont des hommes et des femmes des Lumières comme les autres. Je crois que c'est important de le rappeler. Jean-Jacques Dessalines est d'abord et avant tout un général génial et qui est en plus doté d'une philosophie politique bien spécifique.
Jean-Pierre Le Glonec, je vous propose de retrouver le comédien Dominique Batraville. Il nous offre un hommage au père fondateur d'Haïti, à ceux qui ont marché sur les troupes françaises à Vertières.
J'ai marché, j'ai longtemps marché, je ne suis jamais fatigué. Fatigué, non ! Fatigué, non ! J'ai marché, j'ai compris la sagesse des sireurs. J'ai marché, tu es le cantique des cantiques, la beauté, pure beauté, tes pieds si purs, tes pieds si purs, disent la fragilité du ciel. Tes pieds si purs crachent les éléments. Eau, feu, terre, air, les quatre éléments d'Empédocle. J'ai marché. J'ai longtemps marché. Je ne suis jamais fatigué. J'ai marché. Oh, silence. Par deux fois. Silence bénédictin. Silence bénédictin. J'ai marché. Je ne suis jamais fatigué. Fatigué ? Non ! Fatigué ? Non ! Jamais ! Jamais ! Je ne suis jamais fatigué. Je marche. Je marche. Je marcherai encore. Voilà. C'est un extrait d'un poème fleuve. La marche. J'ai un ami qui en a fait un film. La danse des pieds. Voilà le titre.
Quel lien vous établissez, Dominique Batraville, entre ce poème, ce cantique, La danse des pieds, dans son esprit, avec l'esprit de la bataille de Vertières?
Bon, la bataille de Vertières, c'est un peu la marche vers les montagnes, la marche décisive pour l'indépendance. Et cette danse, c'était aussi la danse guerrière, parce que le père fondateur d'Haïti, c'était un excellent danseur, Jean-Jacques Dessalines. Et moi-même, je suis marcheur et je suis fasciné par la danse. Donc, c'était pour incarner l'esprit des pères fondateurs, l'esprit de l'indépendance et aussi l'esprit de la marche. Par exemple, à l'époque de l'occupation américaine, il y avait un mouvement révolutionnaire qui s'appelait le mouvement CACO. Ces CACO, c'était des paysans en guerre qui résistaient contre les Américains, mais par moment, ils étaient pieds nus, et par moment, le contact des pieds avec le sol, avec la terre, ça crée une énergie. Et cette énergie m'est venue aussi lorsque, dans les récitals, je récite pieds nus ce texte, la danse des pieds, et pour moi, il y a une relation avec l'histoire.
Une histoire donc qui se transmet dans ce contact à la terre, dans l'affirmation de cet homme haïtien qui redresse la tête et qui marche pour résister, qui marche pour se battre, qui marche pour faire reconnaître ses droits, de la même façon que vous le faites aujourd'hui, de la même façon que votre papa l'a fait au moment de l'occupation américaine, de la même façon que Dessalines et les paysans haïtiens se sont battus contre les Français lors de la bataille de Vertières.
Oui, tout à fait. Oh, c'est un peu fort ce que vous dites là, mais c'est de la vérité historique. Parce que quand on prend les mouvements révolutionnaires haïtiens, c'est des mouvements des fois de guerriers modestes dans leur équipement et qui n'ont pas de munitions lourdes, mais qui sont capables d'engendrer des batailles décisives. Par exemple, c'est les armes des Français qui ont servi à fond à la bataille de l'indépendance. Et donc, c'est dans l'ordre de la surhumanité, les batailles qui se font en Haïti. Les batailles pour l'indépendance, les batailles contre l'occupation américaine, les batailles pour les renversements de dictature. Des fois, c'est dans le déchirement qu'on gagne ces batailles et des fois on atteint la surhumanité.
La surhumanité des pères fondateurs en Haïti, selon Dominique Batraville, au son toujours de ce cri de ralliement, grenadier à l'assaut. Et dans l'histoire d'Haïti, ce grenadier à l'assaut a aussi été récupéré en quelque sorte par le pouvoir haïtien, y compris par la dictature haïtienne. Je pense à celle des Duvaliers.
Oui, tout à fait. Le chant grenadier est utilisé par les tontons Macoutes, les tristement célèbres tontons Macoutes, lorsqu'ils défilaient dans les rues de Port-au-Prince ou lorsqu'ils allaient procéder à des arrestations d'opposants. Le chant a été instrumentalisé, tout comme la mémoire de Vertières, dans la mémoire haïtienne. Hein, l'un des actes fondateurs de François Duvalier, lorsqu'il est élu président, il se rend au Cap haïtien pour déposer une gerbe de fleurs au pied du monument en l'honneur des héros du 18 novembre 1803. Donc dès le début, Vertières est instrumentalisé. Mais ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que les opposants au Duvalier père et fils, eh bien, réutilisent la chanson comme un acte de résistance. Ils n'ont plus rien, mais par contre, ils ont la mémoire des ancêtres, et cette mémoire-là, ils la respectent en continuant leur lutte.
Et c'est toujours ce fameux refrain, grenadier à l'assaut, un refrain qui traverse le temps, repris dans toutes circonstances, y compris le mondial de foot.
Next stop, Brazil 2014.
Grenadier à l'assaut, chanté envers et contre tout en Haïti, symbole de liberté et de puissance. Grenadier à l'assaut a été également repris par le chanteur devenu président le 14 mai 2011. Vous savez bien, Michel Martelly. Écoutez RFI au son de Grenadier à l'assaut. Nous revenons sur une bataille oubliée par le monde entier, sauf par ceux qui l'ont faite. Ce sont les Haïtiens. Et je les embrasse puisque nous sommes très écoutés en Haïti. Donc j'ai nommé la bataille de Vertières, dernière bataille de la guerre d'indépendance d'Haïti, appelée expédition de Saint-Domingue par la France de Napoléon. Alors je dois préciser que c'est notre invité Jean-Pierre Le Glonec qui signe la playlist de cette émission. Et Jean-Pierre Le Glonec, que vous montrez bien que l'on ne peut pas comprendre l'histoire de la bataille de Vertières le 18 novembre 1803 sans s'intéresser évidemment aux archives, sans s'intéresser à la mémoire collective véhiculée entre autres par la chanson et sans tenir compte non plus de la dimension spirituelle et religieuse dont sont habités les acteurs de la bataille. Il vous a fallu conjuguer différentes approches, j'imagine, pour essayer de comprendre justement cette histoire haïtienne.
Oui, la première, enfin, je voudrais rassurer les auditeurs que l'histoire militaire n'intéresse pas véritablement. Mon livre ne relève pas du tout de l'histoire militaire, c'est plutôt une histoire culturelle, une histoire totale de l'événement. Je m'intéresse à un événement bien spécifique, le 18 novembre 1803, mais je m'intéresse surtout à ses résonances historiques, à ses résonances mémorielles, à ses silences, à ses disparitions et à ses résurgences. Alors, c'est certain que j'ai dû croiser les approches, l'approche culturelle, l'approche littéraire. Je me suis beaucoup intéressé à la peinture également et aux témoignages oraux. Alors, c'est un livre qui témoigne une aventure d'historien, finalement. J'ai appris à faire ce que je ne savais pas faire. J'étais spécialiste du XVIIIe siècle et finalement, j'ai plongé dans les archives du XXe siècle qui sont très nombreuses et souvent difficiles à décoder.
Alors, je vous propose à ce sujet de retrouver notre griot haïtien, Dominique Batraville, initié au vaudou par son père. Il invoque des cantiques vaudou et chante les dieux africains dans la bataille de Vertières.
Agueta rouyo sous la mer, moins temps de tirer. Agueta rouyo sous la mer, ça c'est une chanson à une divinité et des fonds marins haïtiens. Et ce dieu s'appelle Agueta rouyo. Et quand il intervient, quand Agueta intervient, il faut chanter. Et il peut t'emmener dans les entrailles de la mer, dans le monde inframarin, pour étudier, pour transmettre sa sagesse. Moins temps de tirer, Agueta rouyo sous la main, moins temps de tirer. Tu comprends un peu, ça veut dire, j'entends des fusillades, Agueta rouyo est en mer. Moins temps de tirer, Agueta rouyo sous la main, parce que les batailles de la guerre d'indépendance étaient aussi des batailles parallèles. Sur le plan humain, les guerriers comme Dessalines, Christophe, Toussaint, quand ils faisaient la guerre, il y a les dieux qui intervenaient. Et ce qu'un livre appelle les dieux en exil. Les dieux du panthéon africain ont laissé leur monde africain pour venir assister les guerriers de l'indépendance. C'est pourquoi il y a plein de cantiques, c'est des cantiques vaudou, mais des cantiques guerriers aussi. Donc ça fait un mariage extraordinaire. Parce qu'il y a les dieux qui étaient là, et puis il y a les vivants qui étaient là. Avec très peu de moyens, on a vaincu l'armée la plus extraordinaire de l'époque, l'armée expéditionnaire française. Donc c'est une histoire merveilleuse. Quand on est enfant et qu'on écoute cette histoire, on est sous le charme. Moins temps de
on est tout à fait sous le charme.
Agueta rouyo sous la mer, moins temps de tirer. Moins temps de tirer, Agueta rouyo sous la main, parce que c'est Agueta rouyo qui a mené les dernières batailles, et puis paraît-il, il a raccompagné les dieux du panthéon vaudou en Afrique, il est passé dans les entrailles de la mer, bien il a pris la mer, je ne sais pas comment ça s'est réalisé, mais c'était lui qui aurait pu raccompagner les dieux en Afrique après l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804.
La bataille de Vertières, symbole de l'héroïsme, de l'abnégation et de l'union des Haïtiens, extrêmement présente dans les cantiques vaudous également, Jean-Pierre Le Glonec, encore une clé, une approche pour comprendre cette bataille de Vertières.
Oui, tout à fait. Ils sont nombreux en Haïti à penser que le 18 novembre 1803, les héros de la bataille, Capois le premier, étaient chevauchés par les lois vaudous. Et ce n'est pas pour rien que Capois, notamment, à la
Capois
fin...
Capois la mort.
Bon, il est plus fort que la mort. Rien ne l'arrête, même les boulets de canon français. On entend souvent dire en Haïti que Capois aurait dit le 18 novembre 1803, boulet c'est de l'eau. boulait ses poussières. Alors, rien ne l'arrête. Et à la fin du 19e siècle, lorsque les grands poètes haïtiens, Massillon Kouakou, Tertullien Guilbeault, parlent de Capoua dans leur poésie nationaliste, Capoua n'est pas un homme, c'est un demi-dieu. Il appartient au panthéon haïtien et il a nécessairement eu de l'aide. De l'aide de ses lois, de l'aide de ses dieux africains qui ont traversé l'Atlantique avec 1 million d'esclaves africains au XVIIIe siècle.
Et vous, Jean-Pierre Le Glonec, vous avez arpenté les terres haïtiennes et vous avez retrouvé la tête de Capoua la mort. Racontez-nous ça.
Oh, c'est toute une histoire, la tête de Capoua. Capoua et son cheval ont été représentés dans une statue en plâtre qui a été installée sur la place du Champ de Mars en 1987, peu de temps après la chute de la dictature. Ce n'est pas un acte anodin, naturellement, de représenter la résistance du peuple après la chute de la dictature des Duvaliers. Cette statue n'a jamais été coulée dans le bronze, malheureusement, et elle a disparu. Lors de mes voyages, j'ai questionné les diverses personnes que j'ai rencontrées, j'ai visité des musées pour m'assurer qu'elle avait véritablement disparu. Et finalement, à force de questions, avec un peu d'entêtement, j'ai retrouvé la tête de cette statue, la tête de Capoua, qui se trouve au Mupana, le musée du Panthéon National. Je remercie ici le personnel qui m'a permis de découvrir cette tête dans un petit réduit, en entrant à droite dans le musée, hein, au musée du Mupana, il y a une collection permanente, mais la tête de Capoua ne se trouve pas dans cette collection permanente.
Et le musée se trouve en Haïti.
Oui, hein, place du Champ de Mars, c'est le musée par excellence de l'histoire d'Haïti à Port-au-Prince.
Alors en ce qui concerne les traces justement de cette bataille de Vertière en Haïti, vous dites qu'effectivement on peut retrouver les lieux, mais qu'en Haïti même, ces lieux ne sont pas indiqués, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plaque qui indique ici s'est déroulée la bataille de Vertière.
Ce sont des traces très fragiles, tout simplement parce que, enfin on peut émettre l'hypothèse qu'après l'instrumentalisation de la bataille de Vertière par la dictature des Duvaliers, il y a peut-être eu une réticence finalement à montrer, ou du moins à officialiser dans la mémoire urbaine le souvenir de cette résistance, parce que finalement plus on officialise et plus on montre Vertière, plus on donne un exemple à ceux et celles qui en Haïti aimeraient s'opposer à l'élite qui est au pouvoir. Alors en effet, au Cap Haïtien, il y a une très très grande et belle statue, le monument aux héros, qui rappelle la geste épique des héros de Vertière. Et un peu plus loin, lorsque l'on prend la route de Limonade sur la gauche, on trouve une stèle en l'honneur de Capoua la mort, une stèle installée au milieu des années 1950 environ. Malheureusement, cette stèle ne fait pas partie de circuits touristiques, elle n'est pas, on ne la visite pas, on ne va pas s'y recueillir. Et juste à côté de la stèle se trouve un autre espace qui est totalement inconnu de la plupart des Haïtiens, et cet espace est peut-être la tombe de Capoua. Dans un fossé se trouve une forme rectangulaire faite de briques, et depuis 2008, 2007, 2008, certains habitants la décrivent comme la tombe du héros assassiné dans un fossé en octobre 1806.
Jean-Pierre Le Glonec, vous montrez bien que cette histoire est occultée côté français, c'est qu'elle est devenue totalement une légende côté haïtien, mais qu'il est difficile finalement de faire l'histoire de cette bataille de Vertière, et c'est pourtant ce que vous avez tenté de faire avec ce livre qui fait date. Et vous citez par exemple un ambassadeur de France en Haïti en poste en 1953, c'est page 95 de votre livre. Ce monsieur déclare qu'il serait beaucoup plus intéressant d'envisager de tourner un film sur les beautés naturelles d'Haïti plutôt que de faire revivre sur l'écran les luttes, souvent atroces, qui avaient ensanglanté l'ancien Saint-Domingue.
En effet, l'ambassadeur de l'époque fait tout pour censurer la réactualisation, ou pour censurer la représentation ou l'évocation de la bataille de Vertière, et plus généralement de la violence qui traverse la guerre d'indépendance. Et l'ambassadeur de l'époque, notamment, veut à tout prix faire modifier le principal manuel scolaire haïtien afin d'y retirer des passages qui, selon lui, déshonorent la France. Donc il y a, depuis finalement le 19 novembre 1953, et encore aujourd'hui, on assiste, enfin on peut décrire des stratégies d'évitement, des stratégies d'effacement, des stratégies d'occultation, qui n'ont finalement aucun sens, si ce n'est celui de taire le courage et la bravoure de soldats ordinaires, d'hommes et de femmes, qui ont tout fait pour faire triompher des droits bafoués par Napoléon.
Je vous remercie Jean-Pierre Le Glonec. Je rappelle le titre de votre livre « L'armée indigène », c'est aux éditions Luxe. Je vous recommande également le dernier livre de Dominique Batraville, « L'ange de charbon » aux éditions Zulma, avec un Z.
Toussaint Grenadier, Dessalines Grenadier, Bookman Grenadier, Macandal Grenadier.
Haïti, la défaite de Napoléon. C'était une édition de La Marche du Monde réalisée par Cécile Pompeani à laquelle vous pouvez réagir sur le Facebook de l'émission. Vous pouvez aussi vous abonner à notre podcast. Les amis haïtiens, n'hésitez pas à laisser des témoignages. Cette émission, c'est la vôtre.
L'histoire nous a identité nous. Si nous pas ouais ça, je nous pas jamais capoter. Haïtien allez. Yon pied bois.
Même haïtien sangé. Même haïtien sangé.
Pas de problème non.
Même haïtien sangé.
Même haïtien sangé.